pour te présenter un petit peu le truc, je pense qu'on va faire genre une chronologie. On va, vu que c'est 30 ans de French Touch, ouais, on va remonter sur les débuts, 90, 94, le studio A, okay, machin.
Et tu
on
vas va essayer aller, de me coincer, quoi.
Non, pour le coup, pas au début.
Pas au début. Après, j'espère que ça va parler un peu de cul, parce que parler de musique, ça intéresse plus personne.
Énergie. What's up DJ?
Bonjour à tous et bienvenue dans What's up DJ, le podcast qui donne la parole à tous les DJ. Aujourd'hui, on reçoit une des légendes des DJ français. Plus de 30 ans qu'il occupe le terrain. On va beaucoup, beaucoup en parler aujourd'hui. Alors, il est à l'origine de beaucoup de choses, hein. Le générique de la Starac, notamment des hits monstrueux et intemporels comme World Hold On, Rock Is Party. Et c'est surtout un des DJ qui m'a donné un petit peu le virus de ce métier. Donc, c'est un vrai plaisir et un honneur de l'accueillir ici dans What's up DJ, dans mon podcast. Hello, bonjour, bienvenue, monsieur Bob Sinclair.
Salut Morgan.
Si t'es là aujourd'hui, c'est entre autres pour qu'on parle de ce bouquin, donc 30 ans de French Touch, Bob Sinclair et DJ Yellow, qui pour le coup est une vraie masterclass. Ça sort le 18 octobre, c'est aujourd'hui, et c'est une véritable bible pour les fans de musique électronique comme moi, qui rassemble, alors il y a plein de trucs, hein. Il y a des photos perso, l'histoire de la musique, de son industrie. Alors c'est Olivier Cachin apparemment qui a fait le travail journalistique.
Alors c'est Olivier Cachin qui a fait la préface.
Ouais.
Et c'est Bertrand Richard en fait le journaliste qui a fait donc toutes les interviews et aussi donc qui a remis la French Touch dans le contexte de l'époque, c'est contexte économique, ouais, social et musical bien
c'est
sûr.
C'est ça qui est super intéressant, ouais, ce bouquin, c'est du coup on se replonge vraiment dans l'époque et on comprend un petit peu comment ça s'est fait. Alors qui a eu l'idée de ce bouquin, c'est toi,
c'est DJ Yellow? C'est moi qui ai eu l'idée, parce qu'évidemment, bon, alors, Yellow, DJ Yellow m'a quitté il y a 20 ans.
Ouais.
En 94, il a voulu faire autre chose, et c'est vrai qu'à un moment, je prenais beaucoup de place, mais j'ai voulu qu'on se retrouve à travers ce bouquin, parce qu'on a vécu 10 ans extraordinaires, et puis que depuis 20 ans, il s'est passé pas mal de choses, donc, dont Love Generation jusqu'à aujourd'hui.
On va en parler.
Donc, tout ça, ça parle, voilà, ça, ce bouquin est plein de belles choses, nos influences de Garnier à Dynasty, à DJ Premier, donc évidemment, on venait tous les deux du rap, donc, tout ce qui s'est passé dans le Bronx, Africa Bamba, Bata, Cooler, enfin c'est énorme de... Et bien sûr, on parle de toute la French Touch,
ouais,
tous les artistes, parce qu'il y a beaucoup de livres, en tout cas, qui parlent de la French Touch, mais ils oublient les gens, en général, beaucoup.
J'ai découvert des gens.
Je parle de tout le,
ouais,
monde.
Il y a Pedro Winter, bon, lui...
Alors, il y a des interviews, bien sûr, de tous les artistes, que ce soit de Dimitri From Paris, Kid Loco, Bang Bang, mais aussi Pedro Winter, Antoine Baduel, David Blow de Nova, voilà, plein de gens vraiment très, très intéressants.
Et alors, quand tu vois ce bouquin un petit peu, là, 30 ans, c'est quoi le sentiment qui prédomine quand tu vois ça?
Quand j'ai commencé à refaire des interviews avec Alain, avec DJ Yellow, il y avait beaucoup de nostalgie.
Ouais.
Parce que je trouve que ça a été un directeur artistique incroyable et qui m'a beaucoup manqué. Et c'est vrai qu'à un moment, en 2004-2005, nos chemins se sont séparés parce que moi, j'explosais avec Bob Sinclair, tu vois, avec le troisième album, Western Dream.
Ouais.
Et puis, lui, il voulait faire de la techno. Bon, on voulait faire plein de choses. Bon, on s'est un peu séparés à un moment où justement, il fallait justement plus se retrouver et partir plus DJ, peut-être créer une agence de DJ. En tout cas, il a pas eu la vision de ce qu'allait devenir le DJ. Et moi, au contraire, je pense que c'est là où j'ai explosé. J'ai eu une vision beaucoup plus, je dirais, commerciale.
Un peu plus visionnaire.
Ouais, en tout cas, c'est là où le DJ, quand la première fois que je suis passé à la Star Academy, où le DJ,
ouais,
est devenu identifiable.
On va en parler.
Pardon,
je parle trop. Non, t'inquiète, mais j'adore, c'est très bien. Justement, alors on va voyager à travers les époques. Mmh. Alors là, on est au début des années 90. À l'époque, il y a seulement Laurent Garnier avec son label FCOM, qui représente un petit peu la musique électronique dans son...
Exactement.
Dans son ensemble. Et toi, tu t'es dit, donc t'avais 20 piges, tu mixais au studio A dans Paris.
J'achetais des disques, j'essayais de faire quelques petites soirées. Alors c'était pas facile de s'imposer, il y avait que des résidents DJ.
Eh oui.
Et moi, je voulais passer de la soul, de la funk, un peu de rap.
Il y avait la clientèle pour ça à l'époque?
Non, il y avait une clientèle, mais sur des clubs très underground.
Des niches. Et donc toi, tu t'es dit, voilà, il se passe pas grand chose, mais je vais quand même monter mon label. Donc c'est là que t'as rencontré Yellow.
Exactement, on s'est rencontré dans un magasin de disques,
ouais,
dans Marais,
comme ça se faisait à l'époque.
Exactement.
Voilà. Et tu t'es pas dit monter un label à 24 piges alors que j'y connais rien dans un truc où je connais personne, ça va se faire, c'est bon.
On s'est dit on va pas monter un label, on s'est dit on va essayer déjà de faire un disque. Je commençais à bidouiller des sons dans ma chambre parce que lui collectionnait DJ Yellow collectionnait le jazz, la soul, la funk.
Et il t'a amené cette culture là.
Il m'a amené cette culture là.
Encore plus.
Donc j'ai bidouillé plein de sons à lui on a dit, tiens, il y a un ou deux morceaux sympas, produisons un disque destiné au DJ.
D'accord.
Donc on en a fabriqué 500 et ça s'est distribué de la main à la main, comme ça, un peu sous le manteau,
ouais,
comme chose d'un petit peu illégal.
Ouais, c'était ça, c'était trop bien, les fameux white, les
exactement,
white labels.
Exactement. Donc on allait à Londres en voiture, on les distribuait dans les magasins de disques et ça a commencé comme ça.
Trop bien. Alors on avance encore un petit peu dans le temps, on est en 98, la France est championne du monde pour la première fois, Black Blamber, Zidane président, tout ça.
Ouais.
Et dans les clubs,
Et dans les radios, on entend ce titre.
Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side,
voilà.
Shoulder height.
On s'est dit, il se passe un truc. Dans le bouquin, tu en parles. Alors, j'avais entendu parler de l'anecdote avec Thomas Bangalter.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu.
Ouais, voilà. Bah, la version est dans le bouquin. En fait, c'est un non-événement, ouais. Clairement. Parce que, si tu veux, pour te remettre dans le contexte du premier album Paradise, ouais. C'est-à-dire qu'au départ, sur Yellow, je fais toute la musique. Hein. Je fais de la acid jazz, je fais du trip hop, et à un moment, 96-97, il y a DJ Gregory qui arrive avec un truc un très French touch, avec des trucs filtrés. Thomas monte son label roulé, ouais. Avec des choses très filtrées aussi. Il dit tiens, c'est assez intéressant, ça me bloque parce qu'il sample du funk, de la soul et de la soul. Donc, tiens, je vais me mettre à accélérer un peu les titres. Mm-hmm. Donc, je fais un maxi, deux maxi, trois maxi sur Yellow. Et puis je vois que les maxi cartonnent. Donc j'ai dit tiens, on va faire un album. Mais je vais pas pouvoir y arriver tout seul. Donc je vais faire un ou deux guests et je vais faire comme si c'était une compilation.
Un album sous l'appellation Bob Sinclair.
Ouais, je vais créer ce personnage. Voilà. On va faire un album et puis on passera à autre chose.
Et à la base, c'était une sorte de collectif de DJ.
Exactement. Ouais, voilà. Y avait pas. C'était un album compilation imaginaire d'un super héros à la française.
Voilà. Ah, je pensais. Jean-Paul Belmondo.
Non mais là, en 98, le DJ n'est toujours pas identifiable. On sait pas.
Ouais,
qui
bien sûr, bien sûr.
Tu vois, donc là,
c'est une autre époque.
Ouais, on est au petit pas par petit pas.
Bien
donc,
sûr.
Je rencontre Bangalter dans un avion pour aller à Miami. Il me fait écouter Stardust. Et j'ai dit Stardust, énorme, je vais faire un remix. Il me dit, tu me fileras un titre à toi et je ferai un remix aussi.
D'accord.
Tout simplement comme ça. Sauf que moi, je lui fais le remix, je lui donne le remix de Stardust. Et lui, il me dit, ah bah écoute, ce que tu m'as donné, ça m'a pas tellement inspiré. Donc tiens, j'ai fait autre chose. Viens dans mon studio écouter. Si ça te plaît, tu prends.
Et là, c'est ça.
Ouais. Et c'est comme un remix. Il me dit, c'est comme un remix, c'est pas grave. Je t'ai pris un petit beat à toi, mais vas-y, à la bonne. On signe un petit contrat comme ça.
Oui,
juste que je te demande.
Voilà, ouais.
Tu ne sors pas en single tu ne sors pas en single. Voilà, c'est ouais. Tout ce que je te demande. Alors, pas de problème, tu vois. Évidemment, ça n'est jamais sorti en single. Mais j'avais signé l'album chez Warner à l'époque. Mm-hmm. Et Warner Allemagne, pour faire de la promo, sort un disque vinyle One Side. For promotion only du disque Gym Tonic. Et le disque se retrouve dans un magasin disque au Canada. Tu sais, parfois, tu sais, les disques promo.
Ça va trop vite.
Les disques promo, parfois, les DJ se les arrachent.
Bien sûr.
Et puis, bien sûr, il y a un exemplaire ou deux qui fuitent et qui se retrouvent dans un magasin à la vente, ce qui est totalement illégal.
Ben oui.
Bon, et Thomas tombe dessus en pensant que c'est moi qui l'avais fait. Écoute. Il m'a appelé, il m'a dit écoute ça va pas, voilà, donc il y a eu une petite altercation qui m'a beaucoup attristé à l'époque. Bon,
tout ça c'est réglé, c'est pour ça qu'on en parle maintenant.
Non mais
t'en parles dans le livre, c'est fini, il y a prescription.
Non mais il y a même pas eu de débat si tu veux, c'est juste qu'à l'époque aussi beaucoup de gens de son entourage ont été assez jaloux parce qu'il a fait deux cadeaux. Il a fait un cadeau à Versatile, le label Versatile de Gilbert qui travaillait sur Nova à l'époque pour le projet iCube, mm-hmm. où il a fait ce remix incroyable pour iCube, et puis à moi. Voilà.
D'accord.
Donc il a pas fait beaucoup de cadeaux. Il a remixé Yann Pouli, qui est un DJ allemand. Et puis voilà, mais c'était un cadeau magnifique, hein, parce que je t'avouerais que c'est ça qui a lancé l'album.
Ben, oui, c'est ça. C'est après l'album Champs-Élysées est sorti.
Alors après il y a eu un deuxième album,
ouais.
Un troisième album.
Et alors attends, parce que là pour l'instant tu vas un petit peu trop vite, parce que toi t'as toujours été dans le sample, tu vois un vrai culte à la musique old school. Comment tu vois toi le futur de la musique électronique, parce que là aujourd'hui ça s'uniformise, tout le monde est sur Splice, il y a plus cette recherche que vous avez eue.
Si tu veux, moi je viens de la culture hip hop.
Ouais.
Voilà, je viens du rap. Les gens le savent pas forcément, mais voilà, entre 87 et 97, j'ai acheté quasiment que du rap,
ouais.
Avec un peu de trip hop évidemment, avec de la soul, des classiques, etc. Donc je me suis intéressé à la façon dont les DJ américains créer cette musique-là, donc à base de recyclage de classiques.
Mmh.
Donc j'allais dénicher des rythmiques, des lignes de basse.
Un peu comme DJ Mehdi, pour ceux qui ont vu un petit peu le documentaire,
ouais,
c'est le même travail de chinage.
Ouais, bien
quoi.
Sûr, ça chinait des disques, ça samplait, et en 1980, entre 90 et 2000, les samples, bon, on les prend,
on
a l'impression que c'est libre de droit.
C'est à nous, quoi.
Tu vois, c'est à nous, machin. Donc après, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de évidemment, d'ayant droit, parce qu'il faut payer les auteurs-compositeurs et les producteurs.
Et DJ Mehdi a eu d'ailleurs ce problème-là sur...
Oui, sur 113, je connaissais pas l'histoire, mais j'ai eu aussi beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, à partir de 99, j'ai bien sûr clearé tous les samples, et c'est tout à fait normal.
Normal.
Alors, en tout cas, tu me disais l'avenir de la musique, mais aujourd'hui, je dirais que c'est devenu tellement facile de faire de la musique,
ben oui.
Comme tu as annoncé Splice, qui est une plateforme de téléchargement de sons, à laquelle tu t'abonnes pour avoir accès à des lignes, à des accords, à des lignes de basse, à des samples, à des voix, à des acapella. Il y a même des tubes qui naissent grâce aux acapella qui sont sur Splice.
Et qui sont aujourd'hui sur Energy, il y a du Splice, hein,
bien sûr,
sur toutes les antennes.
Et il n'y a pas encore d'intelligence artificielle?
Ça arrive.
Ça arrive.
Ça arrive parce que sérieusement.
C'est un truc de dingue.
T'en penses quoi tout ça? T'as cette
Mais j'en pense, je vais t'expliquer, j'en pense du bien. J'en pense du bien parce qu'il faut être très intelligent pour utiliser l'intelligence artificielle.
C'est vrai.
C'est-à-dire que si tu lui racontes n'importe quoi, il te sort de la merde.
Ouais, c'est vrai.
Sauf que si tu lui rentres des démos, des maquettes, avec des bouts d'acapella,
ouais,
avec des petites choses, bah lui va te guider, il va t'orienter et il va te donner des idées bien plus rapidement qu'un musicien.
C'est que...
Donc je pense que, encore une fois, comme le DJ ne savait pas faire de la musique, moi je sais pas, aligner deux accords, mais associé à des musiciens, ça a donné des choses extraordinaires. Je pense que et les DJ et les musiciens et l'intelligence artificielle vont donner naissance sincèrement à des choses extraordinaires. Parce que le musicien, il est forcément influencé par quelque chose. L'intelligence artificielle aussi, mais il ira à des endroits où les mélodies n'existent pas puisqu'il les connaît toutes.
Ah bah oui.
Tu vois?
ChatGPT versus Bob Sinclair, ça va être quelque chose.
Non, je sais pas. Non, j'ai pas jusque là, mais en tout cas, je suis assez optimiste.
Bon, c'est le principal. Ouais. On avance encore un petit peu dans le temps. Du coup, on est à peu près en l'an 2000. Le monde a échappé au bug du siècle. Et toi, tu commences à empiler les tubes. Feel for You.
Avec ça, c'est mon premier top 10 en Angleterre.
Énorme. Avec le clip. T'avais avec un truc à l'œil. Qu'est-ce que t'as
à l'œil? Avec le clip dédié à ce film qui s'appelle Phantom of the Paradise, qui est un film de Brian De Palma.
D'accord.
On est tous très fans de ce film Phantom of the Paradise de 74.
Ouais.
Et j'ai évidemment été inspiré pour faire le clip où je mets cet œil parce que dans le film, le méchant s'inspire de Faust, donc de Sing Impact avec le diable, pour dépouiller les artistes de leur voix, de leur talent musical, etc.
C'était
c'est fantastique.
T'étais un peu le méchant dans
voilà,
le clip.
Voilà, dans le clip.
Mais le clip était monstrueux. Il y a eu celui-là, il y a eu The Beat Goes On.
Ça, c'est dans l'album 3.
Ouais. Et ça, pareil, il y a une petite histoire sympa. Je vous invite vraiment à lire le
bouquin.
Ouais,
faut acheter le bouquin parce que toute l'histoire de tous les titres sont vraiment dans le livre.
C'est ça.
Moi, en 2001, j'ai rencontré Céron.
Ouais.
Parce que j'ai clearé le sample pour I Feel For You. J'avais clearé le sample d'un titre à lui. Et
une personne qui bosse avec lui.
Et il avait une équipe extraordinaire à l'époque, dont Alain Wisniak faisait partie, qui faisait toutes ses mélodies.
Mmh.
Et je l'ai rencontré et on a fait l'album 3 ensemble, dont The Beat Goes On.
Et alors, ce Alain Wisniak, ça s'est passé, t'es en studio à New York avec justement ce Alain Wisniak.
Ouais.
T'es parti pour sampler des samples de Karen Cheryl. C'est ça?
Ouais, je
suis animatrice à l'époque, non?
T'es en quelle année là?
Là, je suis en 2005 à peu près.
Voilà, bon, on va dire qu'on est en 2004, fin 2004,
fin 2004.
Forcément, la French Touch est morte.
Donc, selon toi, 2004, c'est déjà fini?
Non, en 2001, c'est terminé. En 2001, c'est pour ça que je fais le projet Africanisme avec DJ Grégory.
Énorme, ça.
On veut aller ailleurs, on cherche une autre inspiration.
D'accord.
Donc, on semble de l'Afrique et au studio, je semble des percussions, des guitares acoustiques, plein de choses comme ça. Et j'arrive à New York et je me dis, il faut faire du disco. Il faut faire du disco avec des chanteurs. Je vais essayer des chanteurs jamaïcains parce qu'il y avait eu un tube venant d'Allemagne avec un sample de Bob Marley. Le groupe c'était Funk Star Deluxe qui avait samplé.
Ah, je me souviens ça.
Tu te souviens de ça?
Oui.
Qui avait samplé Sunny Shining.
Ouais, grave.
Voilà. Donc à la suite de ça, je me dis tiens, ça marche pas mal. Peut-être que le disco va aller avec le Jamaïque. Donc je fais venir des Jamaïcains en studio.
Gary Payne.
Ouais, Gary Payne en studio, rien ne marche.
Ouais, rien
sauf,
ne marche.
Je dis tiens, j'ai fait un instrumental à base de guitare acoustique.
Ouais.
Bon, ça pourra peut-être faire une balade pour l'album, on verra, bon, etc. Et il se trouve que la mélodie qui pond est incroyable. Alain Wisniak fait la petite mélodie de refrain. Donc on est 3-4 au studio à faire des petits bouts, à rajouter des petits bouts comme ça sur le titre.
Ouais.
Et ça donne naissance à Love Generation.
Voilà. Et ça
fait mal. Hein.
Et ça fait mal. Je me souviens, alors ça me ramène très loin, hein, mais j'ai reçu le vinyle promo. J'allais partir à la radio. Ouais. C'était à l'époque où je faisais déjà Extravalence. Et je dis, oh tiens, Bob Sinclair, je vais écouter. J'ai écouté, il y avait genre 15 secondes d'intro et il y a la guitare qui part. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Parce que c'est la première fois.
Fraîcheur.
Ouais, non, c'est exactement ce que tu viens de dire. Fraîcheur. Moi, quand je l'ai fait écouter la première fois à David Guetta et à Joachim Garraud,
ils y ont pas cru.
Non, ils m'ont dit, mais comment les gens peuvent danser là-dessus, tu vois? C'est trop pop, c'est guitare acoustique, machin, ça marchera jamais, etc. Oui, j'ai dit, mais quand tu joues tes trucs électro, parce qu'à ce moment-là, 2003, 2004, 2005, les Suédois sont déjà à la tâche.
La Swedish.
Voilà.
Ouais. Les Axel, Ingrosso.
Steve Angelo sont déjà là en train de faire des trucs électro très, très club. Je dis, mais quand t'as passé deux trucs ou trois trucs électro, t'as pas envie que les gens se reposent et passer un petit peu à l'amour?
Je passe
à l'amour. J'ai testé et puis carton énorme.
Bah là, c'était monstrueux. 2005, donc le titre qui a tout changé pour toi,
oui,
qui te propulse au rang de star, clairement, on va le dire, c'est Love Generation.
Ouais, je deviens identifiable pour les gens.
Alors, tu sais que la légende raconte, parce que ce titre-là a été choisi par la prod de TF1, mais genre à 10 jours ou 15 jours du lancement.
Ouais.
Exactement.
Oui, oui. Ah bah bien sûr, parce que j'avais refusé de faire cette synchronisation.
Ah ouais.
Mais oui, parce que quand Pascal Nègre à l'époque qui est directeur général d'Universal m'appelle en me disant écoute Bob, on a l'opportunité. Donc c'était au début juillet. Il m'a dit on a l'opportunité de synchroniser ce titre qui n'était pas encore sorti en CD.
Ouais.
Ça buzzait déjà en vinyle. Donc j'avais déjà le soutien de tous les DJ à l'international. Donc j'allais pas me fourvoyer dans une émission
oui.
de télé.
Ah oui, tu vas voir.
Mais regarde d'où je viens, Morgane. Ah, tu vois d'où je viens.
Bien sûr.
Parce que je viens d'un label, d'un petit label.
Si t'as Yellow Prod, c'est justement pour pas aller dans ce genre de média entre guillemets.
Voilà.
Quoi.
Sauf que Pascal. Donc je lui dis non.
Hors
de question, c'est terminé. Me rappelle plus. Il me dit bon, c'est dommage. Bon, il raccroche et au bout de 3 semaines, il me rappelle parce que ils ont essayé de chercher autre chose
ouais.
et ils m'ont dit écoute. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit écoute, ça fait 10 ans que tu fais de la musique pour les clubs, que t'as ton label, etc. Ne refuse pas le succès, ça va être énorme, ça va être numéro 1.
Ouais.
Il m'a dit écoute, Pascal, c'est un mec génial. Pascal, c'est un mec qui a une intelligence extrême et qui a fait beaucoup de tubes, qui a développé et créé beaucoup d'artistes. Donc j'ai dit allez vas-y banco, je te laisse faire. Et le morceau a été numéro 1 immédiatement.
Ça a pas été trop dur à t'étais pris parce que ça faisait déjà 10 ans que tu tournais, mais cette vague, elle a pas été trop dure à prendre dans la tronche?
Alors si ça fait un flop. Ah, ça c'est dur.
Ah mais c'était impossible.
Mais comme il a dit,
t'avais la machine de la star
derrière.
Il m'a
dit t'as fait tes preuves.
Ben oui.
Ça fait 10 ans que tu fais des trucs pour les clubs, machin. Ça y est, là ça va être un tube mondial. Vas-y, lâche-toi, tu vas être identifiable. Ta carrière
sur le plateau,
explose.
L'époque.
Mais oui, oui.
Ouais, t'étais sur le plateau.
Et après ils m'ont appelé. Bien sûr, quand ils ont essayé, le premier DJ à être venu en télé en France.
On était partenaire à l'époque avec Energy.
Exactement, c'était exactement.
Et derrière t'as enchaîné l'album. Donc t'en parlais tout à l'heure, Western Dreams, avec des classiques. Celui-là, forcément.
Ouais. Il y a 3 titres sur l'album. World of Dance, bien sûr. Et c'est celui qui est là et qui ne bouge pas.
Il bouge pas.
Il vient d'être remixé par Fischer. Fischer, on en est à 300 millions de streams. C'est incroyable.
C'est infatigable. Ah, mais ouais. Alors, justement, cette collab-là, je voulais en parler avec toi parce qu'après, il y a eu le projet Fireball. Il y a eu les prods avec Cutty B.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu changes beaucoup d'équipes. C'est-à-dire que tu vas.
Non, j'ai changé toujours la même équipe.
Ouais.
Mais j'aime le métissage, si tu veux. Donc, comme le sample, je prenais du jazz, de la soul, du funk, etc. Là, je vais dans les Caraïbes, je vais au Brésil, je vais en Afrique, je vais un peu partout. Mais il y a toujours cette unité de positivité. Tu
ouais,
vois,
je vois.
Je veux fédérer et j'essaie de travailler avec des mecs qui ont des bonnes vibes, tu vois, qui ont des belles voix, des bon. Et c'est souvent des Africains, tu vois, souvent des.
Ça c'était fort.
Bah ouais.
Ça c'était énorme.
Ça rock party,
2007.
C'est 2006.
2006
ouais. Dans l'album aussi, énorme carton. Ouais. Je crois que c'est un des titres qui marche le mieux aussi dans mon catalogue.
Infatigable.
Big Ali.
Ouais, voilà.
Bien sûr.
Infatigable. Mais pour moi, c'est vrai que la couleur qui te définit le mieux, c'est cette couleur-là, africanisme. Et est-ce que dans
ça,
les
c'est un morceau de Martin Solveig.
Oui, c'est Martin Solveig, mais c'est dans le projet africanisme.
Exactement.
Et je me dis, est-ce que le Bob Sinclair qui va forcément sortir des trucs,
ouais.
Est-ce qu'il aurait tout à gagner entre guillemets de repartir dans cette vibe-là?
Mais c'est drôle que tu m'as parlé de Fireball et il y a un remix de Fireball qui sort dans 3 semaines là.
D'accord.
Parce que j'ai de la demande sur ce titre-là. Et tu sais que Fireball, c'est le seul titre qui a été numéro 1 en France.
Ah, c'était numéro 1?
Ouais, numéro 1 en France.
Genre World of Dance, il n'a pas été numéro 1?
Non.
Ah bon?
Non. La Starac a été numéro 1 parce que c'est passé à la télé.
Ouais.
Mais où Fireball a été numéro 1 sur Energy et numéro 1 en France en radio.
Ah, celui-là, je m'en souviens. Hein.
Ouais, Fireball.
Oh, et à quelle époque. Alors, j'ai bien lu le bouquin, parce que encore à 3h du mat cette nuit j'y étais.
Ouais.
Et DJ Yellow dit que une de tes failles, parce qu'apparemment tu
oh, j'en ai bien sûr,
ouais,
évidemment.
Comme tout le monde, mais apparemment c'est une sorte de solitude. Est-ce que tu me confirmes ça?
Ouais,
est-ce
ouais,
que
ouais.
tu penses que ça fait un petit peu partie du pack DJ? J'ai l'impression, parce que j'ai interviewé beaucoup de DJ dans ce podcast. Et on a tous un petit peu ce sentiment-là de solitude.
Oui, oui, oui. Alors la solitudine, comme je l'appelle, la solitudine.
Solitudiner.
Oui, parce que les gens ne voient que ce qu'on leur propose sur Instagram.
Oui.
Alors forcément, avec des gens, tout le monde, c'est la fête tout le temps. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu. Alors, je suis
un
toujours
peu
un peu pas triste. Ah. Non, pas triste. Un peu mélancolique.
Ah,
voilà.
Mais c'est bien, parce que ça fait faire des beaux morceaux.
Voilà, c'est pas de la tristesse. Je suis jamais en dépression. Il y a une pression, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pression et forcément il y a une petite baisse de pression.
Normal.
Mais c'est jamais négatif à prendre des cachetons, des trucs comme ça.
Ah bah j'espère.
Mais tu sais, le succès c'est un poison. Hein, d'être dans les clubs, les gens t'envoient une telle énergie.
Un tel amour.
C'est un poison, c'est addictif, c'est une drogue dure. Hein. Donc forcément, dès que tu sors d'une tournée,
c'est
descends
dur.
De là.
C'est ce que disait Henri PFR, il sortait de son summer tour là, l'an dernier,
ouais.
Et il est sorti, il a fait une dépression.
Non, mais oui, mais oui
c'est
parce que l'amour des gens, puis t'es fatigué, tu tiens constamment sur la tension, tu sais.
C'est vrai.
Donc quand tu rentres chez toi, tu dis, ah merde. Finalement, je suis un mec normal.
Bah oui. Et tu compensais du coup avec la famille, avec des
choses simples. Heureusement, moi je travaille avec ma maman depuis 20 ans, qui est au label, qui gère le label. Mes enfants ont toujours été là, bien sûr, pour te dire, eh oh, redescends un peu de 4 étages. La vraie vie, c'est les enfants, c'est le kiff, c'est l'amour, on est ensemble et on est là pour te soutenir. Mais quand tu as une créativité artistique, tu vois, qui était constamment dans une pensée, tu vois, t'as un tourbillon de pensées constant dans ta tête, qui, dans la, parce que t'es constamment dans la créativité, c'est pas facile à gérer.
Ça fait partie du pack DJ, quoi.
Exact.
Alors, cette solitude, on l'a tous ressenti un petit peu en 2020 avec le Covid, et toi, t'as été là pour nous aider à ce moment-là. Tu nous as fait 55 lives, tu nous as fait faire des voyages musicaux monstrueux à des millions de vues sur Facebook. Enfin, vraiment, ça a été un vrai boom. Est-ce que limite, ça te manquerait pas un petit peu, ce petit confinement-là?
Ah, ça a été un moment assez magique.
T'es le seul à avoir kiffé, je pense, le confinement. Hein.
Bah, j'espère que j'ai fait kiffer pas mal de monde aussi,
vraiment.
C'est sûr qu'on se retrouve du jour au lendemain, c'était une situation assez inédite et assez anxiogène. Donc moi tu m'enfermes pas. Donc moi j'étais enfermé dans mon studio et j'ai dit tiens, on a des médias, on a Instagram, on a Facebook, utilisons-les pour une fois, hein, sans
barrière, sans
rien. Et voilà, moi je vais vous proposer tous les jours la musique avec laquelle j'ai grandi, celle qui m'influence. Donc voilà, j'ai sorti au départ quelques vinyles. Première émission, 1 million de reposts.
C'était costaud. Non mais t'as vu ce que tu jouais aussi, c'est tu partais tellement loin, puis après t'as mis ça en scène avec les mannequins, machin. Forcément, et à ce moment-là, on avait besoin de ça. Et
je pensais pas. Ouais, mais tu vois, les gens étaient en famille et ils se retrouvaient et les gens ont fait preuve de beaucoup de nostalgie. Ils avaient besoin d'être rassurés.
Ah ben c'est ça.
Et j'étais là 1 heure par jour à leur dire voilà les gars, allez, moi j'écoutais ça et je recevais des messages, je te jure, des messages d'amour, mais j'ai jamais reçu ça de ma vie entière.
Ça fait du bien.
Tu vois, c'est énorme. Et au bout de 3 jours, Facebook France m'appelle en disant on va te libérer les droits, le flux, on va te repasser, parce que tu es la troisième chaîne la plus visionnée en France à ce moment-là. C'était un truc de fou. Voilà, ça a été un très gros succès, un de mes plus gros, hein, bien avec les titres, etc.
Et ça t'a donné du coup envie de repartir un petit peu en production. Tu prépares des trucs là pour les.
Bah, malheureusement, on n'a pas été confiné qu'une seule fois.
Oui, c'est donc vrai. Ça a été deux fois.
Alors moi, je me suis dit, allez, on va se déconfiner, tout le monde en club, ça va être la guerre.
Tu l'as vécu le déconfinement quand même.
Ouais, mais il a été timide, un peu partout. Moi, je pensais que j'allais pouvoir jouer de la funk partout en club.
Ah non, des animaux
sont sortis de là.
Alors c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'il y a pas longtemps, tu nous as sorti une petite vidéo. Alors on sort un petit peu du cadre du livre, de ce que tu as vécu à Mykonos.
Vécu à Mykonos d'une façon assez violente.
Mais je le vis
depuis la sortie du Covid.
Bah oui.
Et ça
va crescendo.
Ça va crescendo à un niveau assez inquiétant où les gens veulent être validés dans leur vie.
Ouais, c'est ça.
Voilà, ils cherchent la validation du voisin, de tout le monde. Regardez la vie que j'ai, elle est extraordinaire, mais vieux, vas-y. Achète-toi une vraie vie, parce que j'ai envie de lui dire, vis cette vie, viens écouter de la musique, écoute-la, danse, fais une petite vidéo avec moi si tu veux, très cool, mais passe pas ta vie à filmer des événements sportifs, à filmer un club, à filmer un truc, essayez de t'inventer une vie, de vivre à travers ton avatar. Tu n'es pas un avatar.
Et malheureusement, je pense que ce n'est que le début.
Et ça fait flipper, mais bon, écoute...
T'arrives à préserver tes enfants de tout ça?
Oh là là, mais ils sont pas du tout là-dedans. Alors non, mais pas du tout. Pas du tout dans ce narcissisme électronique, tu sais.
Alors qu'ils pourraient, pour le coup. Mon père, il fait quoi ton père?
Je t'assure qu'ils sont pas du tout dans le. On travaille ensemble.
Ouais, j'ai vu.
On s'entraide, on se poste, on se reposte. Mais on n'est pas du tout dans un voyeurisme malsain.
Donc tout ça, c'est, je pense, une question d'éducation.
Exactement.
C'est pas. Plus...
Bah, ils sont nés avec.
Voilà.
Et puis moi, je suis pas du tout dans un voyeurisme. Je pose des trucs drôles, mais je suis toujours dans un personnage, tu vois. Jamais dans l'ostentatoire. Regarde ma bagnole, j'en ai pas. Regarde ma montre, j'en ai pas non plus.
T'as pas de montre?
Non, j'ai pas de montre.
Oh,
non, je t'assure.
Pas de temps.
Mais non, c'est pas ça. C'est ne cherchons pas à s'inventer une vie.
Ouais.
Voilà. Moi, je suis dans mon personnage. Je partage des choses drôles avec des vraies valeurs. Et puis ma musique.
Tu parles du personnage de toute façon, Bob Sinclair. À la base, c'est de la musique et du cul. C'est ce que tu dis dans le
livre. Alors c'est vrai, j'ai une faiblesse. Bon, ok. J'aime bien parler de cul, mais c'est pas grave, c'est pas méchant.
Moi, je suis.
Tant que ça blesse personne.
Non, voilà. Mais je suis tes aventures sur Instagram. T'as toujours des danseuses magnifiques.
Voilà, mais avec beaucoup de respect. Hein,
toujours.
T'as vu ça, hein?
Toujours.
Pas touché, oh. Pas touché,
oh. Pas touché, oh.
Pas touché, oh. Pas touché.
Je sais que quand t'es en Italie, en général.
Mais c'est eux, c'est moi, je demande rien. C'est les Italiens, ils aiment bien les jolies filles. Allons-y.
Ah, quelle vie, mais mon Dieu, quelle vie.
Voilà.
Les amis, Bob Sinclair, DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch, ça sort aujourd'hui. Et vraiment, allez acheter ce bouquin parce que vous allez apprendre plein de choses. Et vraiment, ça a été un plaisir de le bouquiner.
C'est un gros pavé, les amis. Hein.
Ah,
ça pèse
contre, 3 costaud,
kilos.
Hein. Ouais, vraiment.
Ça pèse 3 kilos, ça fait 320 pages. C'est 59€. Alors, c'est, je pense que ça doit être 3-4 paquets de cigarettes.
Bah oui.
Mais c'est 59€ vraiment d'un livre. C'est petit prix. Parce que bon là, je te avouerai que voilà, c'est un investissement à fond perdu, mais c'est pas très grave. On laisse.
C'est de la culture, donc c'est jamais à fond perdu.
C'est un livre, voilà, c'est magnifique. C'est, je vous le conseille parce que c'est une histoire fabuleuse.
Et surtout, on replonge dans les années 90, les années 2000. Alors du coup, ouais, je voulais te demander parce que toi, qui as connu un petit peu, alors c'est pas méchant, mais t'as connu plusieurs décennies de clubbing.
Ouais, mais non, mais sans problème, sans problème.
C'est trop bien.
Et tu sais, je n'ai que 35 ans, t'imagines.
Ah, c'est vrai.
Ah ouais, je mixais déjà à 8 ans et demi.
35 ans d'expérience. Mais alors pourquoi, pour toi, quelle est la meilleure décennie? Laquelle où tu t'es le plus amusé et où tu sentais que les gens étaient vraiment pompés l'op.
Bah, c'est-à-dire que quand tu fais un énorme tube, enfin quand tu en enchaînes trois comme ça,
ouais.
Love Generation, World Hold On, Roxy's Party, qu'il n'y a pas de réseaux sociaux,
ouais.
Donc que les gens découvrent ces musiques et qu'ils
Radio
veulent les réentendre et les réentendre et les réentendre. Bon, ça se passe toujours comme ça aujourd'hui, mais il y a une connexion énergétique entre le DJ, tu vois, qui t'envoie de la musique, qui te renvoie une énergie corporelle, et ça discute, et ça, et waouh, c'est une magie fabuleuse. T'es sur un tapis volant, t'as l'impression que tu vois, que tu touches plus terre. C'est là qu'il faut redescendre, parfois.
Ouais, bah oui. Ouais. Donc c'est 2000-2010 pour toi.
Ouais, c'est 2005, 2006, 2007, jusqu'à, ouais, c'est il y a 5 ans vraiment, entre 2005 et 2010, qui sont assez magiques. Et les réseaux apparaissent, ça devient bon. Les réseaux, quand c'est bien utilisé, ça peut être magique aussi. Hein.
Ouais, mais c'est rarement bien utilisé.
Bon, voilà.
Et ce que tu dis aussi dans le bouquin, c'est qu'entre 2010 et 2019, t'as vécu une période de frustration totale, où là t'es un peu passé à travers. T'as essayé des feats avec Sean Paul, avec Snoop Dogg. Qu'est-ce qui t'a manqué à ton avis à ce moment-là pour accrocher le train, on va dire, même si t'étais dans le train, où tu voulais être.
C'était pas tellement frustration au niveau des featuring. Hein.
C'est frustration totale au niveau de l'époque. C'est-à-dire que c'est le DM, c'est les festivals qui pètent de partout, le rap.
Après 2010, évidemment. David Guetta cartonne avec son album, avec ses featuring, où il fait le crossover avec des artistes américains. Et là, on arrive dans le co-branding et on arrive vraiment dans l'EDM pop.
Ouais.
Vraiment dans la pop, qui est un peu moins club, mais qui est un petit peu masculine, tu vois. Et moi, je suis toujours dans le, comme tu l'as dit, tu vois, un petit peu dans la mélancolie et dans les mélodies. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus féminin. Donc c'est une période pendant entre 2010 et 2017, ça a été une période compliquée.
Mais après, t'as quand même.
Mais on survit, tu vois.
Voilà,
on passe. Moi, j'ai fait des gros classiques et
ouais.
Je continue de faire des titres. Mais j'essaie toujours de faire des ovnis. Donc ça marche pas toujours, forcément. Écoute, je suis très content, je suis toujours là.
Et le prochain ovni, c'est pour quand?
C'est pour quand? On travaille dur.
Toujours avec la même équipe, du coup, avec.
Ouais, j'ai plein de jeunes avec qui je travaille.
Ouais.
C'est pas facile de trouver parce que. Tu peux pas engager des équipes. Moi, je peux pas engager des équipes pour travailler à ma place, puisque je suis toujours dans une espèce de nostalgie, tu vois.
D'accord.
Donc, je viens, voilà, le passé, toujours, voilà, faire de mon futur. Toi, je me servir du passé pour créer mon futur. Donc, voilà, j'essaie de recycler des choses. Bon, on verra. Puis, si ça se passe pas, c'est pas grave. En tout cas, le livre, le catalogue est là. 17 millions d'auditeurs par mois sur Spotify,
mon ami.
Beau,
mais
hein. Oui.
Ouais.
Parce que c'est, puis j'ai la petite pastille verte. Donc ça veut dire que la bleue, je crois.
Ah,
je
c'est
quoi.
La bleue. Vert, c'est green. Quelque
ça
chose,
veut dire non, que je fais partie des 500 artistes les plus écoutés sur Spotify.
C'est beau.
Mais non, je dis pas ça de façon prétentieuse. Je dis juste que tu vois, le catalogue est là et les gens les consomment comme des classiques.
Mais
tu
de
vois.
Toute façon,
donc
quand
c'est déjà pas mal.
Des morceaux comme ça, ça que ça.
Mais oui, voilà.
Ça survivra en fait. Ça va aller au-delà.
Ça fait d'air, c'est génial. Déjà quand tu existes en tant qu'artiste.
Bah oui.
C'est déjà fabuleux.
Et toi, il y a aucune lassitude quand t'es en soirée?
Non, pas ces titres-là.
Tu peux pas.
World of Dance, je peux pas me lasser de ça.
Bon, ça va.
Parce que si t'écoutes les paroles, si tu en arrives à traduire les paroles,
ouais.
elles sont d'actualité. Et elles seront d'actualité pendant encore des décennies, puisque c'est World of Dance.
Calmez-vous, quoi.
Ouais, faites attention.
Ouais.
Un jour, vous aurez peut-être le jugement de Dieu. You know, the Children of the Sky,
ouais.
C'est clairement le nom de Dieu en image. Donc faites attention à vous, faites attention à la planète, faites attention, etc.
C'est l'actu, hein.
Voilà, on est en plein dedans. Faites attention, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de la planète, parce que vous aurez un jour le jugement de Dieu.
Eh ben, je pense que on peut se quitter là-dessus.
C'est pas mal, hein. T'as vu le poète, le prophète que je suis.
Ah, j'ai presque envie de lâcher une petite larmichette.
Vas-y.
Merci Bob Sinclair d'être venu en tout cas ici dans votre
Morgan, magnifique. Merci pour tes questions.
Et 30 ans de French Touch, ça sort aujourd'hui. Et attention, parce qu'on a un exemplaire dédicacé que tu vas faire maintenant.
Eh oui.
Voilà.
Exactement.
Qui va être disponible sur les réseaux, sur les RS d'énergie. Rendez-vous dès maintenant sur l'Insta d'énergie et vous aurez peut-être droit de gagner ce livre dédicacé.
Exactement.
Par monsieur Bob Sinclair.
Merci.
Merci Bob, à bientôt. Énergie.
What's up, DJ?